Ah, vous m'avez fait peur. Il faudrait vraiment que vous perdiez cette habitude de toujours venir en avance, parce qu'à chaque fois, c'est embarrassant pour moi. Là, si vous voulez savoir, eh ben c'est la cervelle de singe que j'ai mangée tantôt qui est pas passée, voilà. Bon. Pourtant, quand je l'ai mangée, l'animal était encore vivant, donc ça aurait dû être frais, mais il faut croire que l'animal était peut-être un peu périmé. Tant pis. Écoutez, je vais vite m'installer au salon, et pendant ce temps-là, on lance le générique, c'est parti. Marianne et Lan continuaient de suivre le sentier qui traverse la forêt et qui mène à la ferme de Samuel. Mais subitement, ils croisèrent la route d'une petite fille. Intriguée, Marianne la questionna.
Dis donc, petite, qu'est-ce que tu fais toute seule dans les bois comme ça? Tes parents sont au courant?
Oui, ils sont au courant. En fait, je vais voir le mage.
Quel mage? C'est quoi cette histoire-là?
Vous n'êtes pas au courant? Mais il paraît qu'il y a un mystérieux mage qui vit dans une mystérieuse caverne, perché sur une mystérieuse montagne, et qui exauce tous les vœux, aussi mystérieux soit-il.
Ah, et qu'est-ce que tu vas lui demander, ce mage?
Eh bien, je voudrais être mystère.
Tu veux dire Miss Monde?
Oui, quelque chose comme ça, quoi.
Et Lan ajouta. Ah, ben ouais, t'as bien raison, on dit, parce que côté beauté, toi, c'est pas trop ça, t'es vraiment moche comme gamine, hein.
T'es méchant.
Et la fille s'éloigna en pleurant. Marianne, étonnée par ce que venait de dire Lan, l'enguirlanda un peu et lui demanda...
Mais qu'est-ce qui te prend de dire un truc pareil? Mais c'est super méchant, qu'est-ce qui va pas chez toi?
Ouais, bon, d'accord, c'est peut-être pas super sympa, mais en même temps, c'est pas ma faute si elle a les dents de travers, les yeux qui louchent, les oreilles décollées, des boutons partout, trois doigts à la main gauche...
Oui, bon, ça va, je sais, la liste est longue, mais quand même, c'est pas sympa, hein. Enfin bon, soit, continuons, on y est presque.
Oh, mais non, il n'y avait pas de scène violente, là, en fait. Oh, ben, autant pour moi, hein. Et ils avancèrent. Très peu de temps après, la ferme de Samuel était déjà visible à l'horizon.
Ben, c'est pas trop tôt.
Ils avancèrent et arrivèrent à destination.
Non, du coup, on a fait demi-tour.
Là-dessus, Lan déposa Marianne et alla s'abreuver à l'abreuvoir et fouiner dans le foin, histoire de se nourrir. Et pendant ce temps, Marianne, avec toujours sous le bras le baluchon de Samuel, alla frapper à la porte. Mais pas de réponse. Elle réitéra. Mais personne ne vint ouvrir. Étonnée, elle colla l'oreille contre le bois de la porte et écouta. Elle entendit des murmures, des pleurs, des sanglots venir du fin fond de la maison. Bon, ça l'a un peu étonnée. Alors, elle ouvrit la porte, elle entra et découvrit Samuel, en pleurs, affalé sur sa table. Elle s'approcha de lui et lui demanda...
Salut Samuel, c'est Marianne. Vous vous souvenez, on s'est rencontrés la semaine dernière au marché.
Ah oui. Je me souviens. Bonjour Marianne. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, dis?
Écoutez, j'ai trouvé votre baluchon dans la forêt, là, et j'étais venue vous le rapporter.
Ah oui, c'est bien gentil. Ah oui, mon baluchon. Oui, je me souviens, c'était quand j'étais...
qu'est-ce qui ne va pas, Samuel?
Oh, c'est rien, j'ai vécu une expérience traumatisante dernièrement. Et Marianne, qui était de nature gentille, bien qu'ayant quand même un sale caractère, mais bon, c'est une fille sympa, elle prit Samuel en pitié et par charité décida de le consoler, comme les femmes savent si bien le faire, hein. Elle le prit par la main et l'emmena dans la chambre à coucher, et alors... C'est ça. Quand il y a des scènes violentes, on demande de les boucher. Mais quand il y a des scènes de cul, ça, on laisse passer, bien sûr, hein. Merci beaucoup. Et alors que se déroulait un acte charnel, lubrique et sensuel, quelque chose allait se produire. En effet, Samuel, bien que robuste, était très enveloppé et n'était plus tout jeune. Et cette activité physique intense qu'il était en train de pratiquer faisait battre à son cœur la chamade. Mais soudain, le cœur de Samuel chanta un autre air. Et oui, Samuel était décédé. Marianne ne le comprit pas tout de suite, elle continua dans son élan. Et puis quand elle remarqua la soudaine mollesse de son compagnon, elle s'interrogea, elle l'appela, il ne répondit pas. Elle le secoua, pas de réaction. Elle le gifla même, pas de réaction. Toujours pas. Elle alla même jusqu'à le traiter de petite bite, mais même à ça, il ne réagissait pas. Et c'est alors qu'elle comprit. Il était mort, et elle était la dernière à l'avoir vu en vie. Là, Marianne paniquait parce que Samuel était mort un peu à cause d'elle, finalement, et quelqu'un de très apprécié dans la communauté. Et elle imaginait un peu le pire, déjà que les sorcières n'étaient pas appréciées. Si en plus on apprenait qu'elle avait fait ça, elle était bonne pour le bûcher. Et franchement, je trouve ça ingrat. Franchement. Parce que le mec, il a eu une belle mort. Ah, moi, si j'ai l'occasion d'avoir une mort comme ça, je signe tout de suite. Enfin bref, Marianne réfléchit rapidement. Et elle eut une idée. Maquiller tout ça en suicide. Elle rhabilla le corps de Samuel, alla à la cuisine, ouvrit la porte du four et y fourra la tête de Samuel afin de simuler un suicide au gaz. Oui, parce que Samuel avait le gaz. Oui, je sais, il était en avance sur son temps. Après ça, Marianne se rhabilla, couvrit les traces de son passage, sortit et ferma bien la porte. Elle regarda aux alentours, mais heureusement, personne ne l'avait vue entrer et sortir. Mais ne restait qu'un témoin gênant, l'âne. Marianne en fut attristée parce qu'elle l'aimait bien, mais il le fallait bien. Elle fit le tour de la ferme, dans la cour arrière, là où se trouvait le box de l'âne, et lui jeta un sort pour l'obliger à se taire à jamais. Après ça, Marianne rentra chez elle. Elle finit sa vie dans sa cabane, seule et rongée par le remords. Moralité de l'histoire. Comme moralité, j'ai choisi un dicton bien connu, et qui, je crois, colle bien avec le récit en question. Ce dicton est « Tant va la cruche au gros, qu'à la fin, il a une crise ».